Et alors voilà, on va débuter les matins avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un accord de Brexit n'a jamais été aussi proche. Hier soir, on apprenait que Bruxelles et Londres auraient enfin trouvé des points d'accord quant à leurs futures relations commerciales. Le tout devrait être finalisé d'ici quelques heures. Le Royaume-Uni aurait fait d'importantes concessions sur la pêche, nous l'entendons.
À Douvres, pourtant, la situation à la frontière ressemble à un Brexit sans accord. Des centaines de routiers sont toujours bloqués en attendant de se faire tester. Les policiers anglais et français ne communiquent pas.
Dans ce journal également, focus sur le devenir des travailleurs du confinement, ceux de première et de deuxième ligne qui attendent toujours les compensations promises par le gouvernement. Enfin, nous irons en Terre Sainte à la fin de ce journal où la veille de Noël se prépare dans la morosité. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, que faire de la dette publique? Je poserai la question à l'économiste Gisabelle Coupé-Soubéran.
On devrait connaître aujourd'hui les termes du divorce à l'amiable, finalement, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les deux parties sont en train de conclure cet accord commercial tant attendu. C'est en tout cas ce qu'assurent plusieurs sources à Londres et Bruxelles. Un accord qui permettrait d'éviter le scénario du pire, à savoir un Brexit totalement désordonné avec retour des quotas et des droits de douane. Finalement, les changements prévus seront moins brutaux, même si le Royaume-Uni sera bien désormais en dehors du marché unique européen. Le travail de négociation continuait encore cette nuit. Une conférence de presse est attendue ce matin à Londres. Les précisions de la correspondante de France Culture à Bruxelles, Angélique Bois.
Ce sont des échanges intenses au plus haut niveau entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen qui ont permis ces avancées. La négociation était restée bloquée sur la question politiquement très sensible de la pêche, mais dans cette dernière ligne droite, les Britanniques ont fait des concessions énormes, indique une source diplomatique française, sans révéler de chiffres. Il faudra bien regarder le volume global de poissons auxquels les pêcheurs européens n'auront plus accès, mais aussi les espèces et la durée de la période de transition pour se faire une idée. Des concessions sur la pêche en échange d'un accès sans quota ni droit de douane au marché unique. Mais les Britanniques ne pourront pas pour autant devenir des concurrents déloyaux, assure une source européenne proche des négociations. Ils ne pourront pas impunément subventionner certains secteurs ou diverger fortement des normes européennes de production, sauf à devoir payer des compensations. Reste à finaliser dans le détail certains points de l'accord qui sera ensuite, sauf mauvaise surprise, formellement validé par les États.
En attendant cette validation, ce qui se passe en ce moment à la frontière entre la France et le Royaume-Uni a déjà des allures de Brexit, sauf que la situation est causée par la pandémie de coronavirus et les décisions prises par la France notamment pour limiter les allers-retours entre Paris et Londres. Résultat, des centaines de personnes, principalement des transporteurs routiers, sont toujours bloquées à la frontière, et ce malgré une levée des restrictions hier dans la nuit. Pour pouvoir passer désormais, les Français qui souhaitent revenir en France doivent se faire tester face à l'affluence. C'est l'armée qui devrait prendre en charge une partie de ces tests. À Douvres, point d'entrée et de sortie, Laure Van Ruinbeck a rencontré Thibaut, passager d'un camion qui n'est pas sûr de pouvoir retrouver sa famille pour Noël, à cause, selon lui, d'un manque absolu de communication entre les polices françaises et britanniques. Écoutez-le.
Au bout de 24 heures sur le parking de Douvres, avoir les flics qui font des allers-retours et avoir aucun interlocuteur aussi bien côté français que britannique, parce que la police de l'ordre des frontières n'est pas au courant autant que la police locale ici. Je suis juste fatigué, j'aimerais arriver de l'autre côté, retrouver ma famille et être retesté ou pas. Parce qu'on a beau avoir payé un test 160 livres, aujourd'hui on peut le mettre à la poubelle, les Français ont changé d'avis, il faut être retesté. Juste... si deux voisins peuvent communiquer, ce serait bien en fait. On se moque des problèmes de voisinage français, mais aujourd'hui, la police de l'arrêt des frontières française, elle est de l'autre côté du rond-point, elle ne parle pas à la police britannique qui est de ce côté-ci du rond-point. C'est juste ridicule, absurde, et à quelques jours du Brexit, on se demande vraiment comment ça va être.
La question est posée en effet. La France s'est faite critiquer par Bruxelles à ce propos. La commissaire européenne en charge des transports ayant estimé que les restrictions imposées par Paris pendant 48 heures avaient été trop sévères. Nous avons fait exactement ce que la commission préconisait, lui a répondu Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes.
7h04 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Les travailleurs étrangers de première ligne, ceux qui n'ont jamais cessé de travailler même au plus fort du premier confinement, verront leur naturalisation immigration accélérée.
Oui, c'était une demande de la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa. En septembre dernier, elle avait demandé à ce que la procédure d'accès à la nationalité française de ces travailleurs étrangers de première ligne passe à la vitesse supérieure, notamment pour 700 d'entre eux qui ont activement contribué à lutter contre le coronavirus. Pour l'instant, 74 demandeurs seulement ont obtenu la nationalité française. Plus de 650 sont en passe de l'obtenir. Les précisions de Juliette Pietraszewski.
Professionnels de la santé, techniciens de surface, gardes d'enfants, caissiers, ouvriers ou encore employés de commerce, tous en première ligne pendant la pandémie de Covid-19. C'est près de 3000 demandes qui ont été déposées partout en France dans les préfectures pour ce motif. Les travailleurs étrangers peuvent ainsi utiliser la notion de service rendu pour passer de 5 à 2 ans la durée minimale de résidence exigée en France. Mais ce n'est pas une solution miracle, pour reprendre l'expression de Stéphane Ouedraogo de la société Topo. Il accompagne les personnes qui demandent la naturalisation française et selon lui, la disposition Schiappa ne comble pas les lacunes du système administratif pour les étrangers.
Déjà, toutes ces personnes-là ne se voient pas accorder un rendez-vous. Donc, on parle de traitement accéléré. Je peux vous donner l'exemple concret de la préfecture en fait de Haute-Garonne, où pour ceux que nous accompagnons dans cette démarche-là, pour ceux qui ont réussi à obtenir un rendez-vous, ce rendez-vous-là pour le dépôt de leur dossier n'interviendra que à partir du mois de mai et pour certains au mois de juin. Donc, pour un traitement qui se veut accéléré, vous m'excuserez, on est vraiment loin en fait d'avoir un traitement accéléré au niveau de toutes les préfectures.
Il rappelle également que cette mesure accélérée ne doit pas cacher la situation globale des demandeurs. Se voir naturaliser reste un véritable parcours du combattant. L'année dernière, 48 000 personnes ont obtenu la nationalité française par naturalisation sur 112 000, en recul de 10% par rapport à 2018.
Quant aux salariés dits de deuxième ligne, caissiers, agents d'entretien, éboueurs ou chauffeuses de bus qui ont permis la continuité des services et des commerces au plus fort du confinement, le gouvernement leur avait également promis des revalorisations salariales. C'était au printemps dernier et depuis, rien. Les négociations de branches qui doivent acter ces revalorisations ne sont toujours pas engagées. Une mission gouvernementale vient tout juste de commencer un travail de recensement des professions concernées. Ce sera le sujet du reportage de la rédaction. Après ce journal, dans la grande distribution, par exemple, les attentes des salariés étaient grandes et les espoirs sont déjà déçus. Écoutez Sylvie Vachou, secrétaire générale de la CGT Commerce.
Ils souhaitent effectivement d'avoir de véritables revalorisations salariales, une véritable reconnaissance de leur métier dit essentiel, hein, et surtout une amélioration de leurs conditions de travail qui s'est largement dégradée pendant la période. Beaucoup d'absentéisme, hein, c'est monté jusqu'à 40% dans certains magasins, sans qu'il y ait d'embauche supplémentaire. Donc aujourd'hui, les salariés sont vraiment à bout de souffle. C'est vraiment les remontées que l'on a. Ils sont épuisés, à bout de souffle. Et tous les espoirs qu'ils avaient mis effectivement dans cette fameuse reconnaissance, aujourd'hui, ils ont l'air d'avoir perdu tout espoir.
Une des propos recueillis par Anne-Laure Jumet, qui signe le reportage de la rédaction tout à l'heure à 7h25. Nous comprenons votre désarroi, votre colère et votre découragement. Ce sont les mots adressés par Jean Castex au Monde de la Culture après la décision hier du Conseil d'État de ne pas rouvrir les théâtres et les cinémas, notamment pour des raisons liées à la reprise des cas de contamination. Leur fermeture a été prolongée au moins jusqu'au 7 janvier, date du prochain rendez-vous pour tirer un bilan de la situation. Enfin, concernant les derniers chiffres de l'épidémie, la France a comptabilisé près de 15 000 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, mais le taux de positivité est en baisse selon Santé publique France. À l'étranger, des grâces présidentielles très contestées. Donald Trump a accordé hier encore une série de grâces à plusieurs personnalités mises en cause dans l'enquête sur les interférences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump en 2016, notamment a bénéficié d'une annulation de sa peine de 7 ans et demi de prison pour diverses fraudes. Le père de Jared Kushner, son gendre et conseiller, figure aussi dans la liste. Et mardi soir, ce sont 15 autres mesures de clémence qui avaient été accordé à 4 agences de la société de sécurité privée Blackwater, 4 agents reconnus coupables du meurtre de 14 civils irakiens en 2007 à Bagdad. L'événement avait provoqué l'indignation. Cette clémence présidentielle également. Thomas Larabi y reviendra dans sa revue de presse internationale. C'est un Noël sans touristes, sans activité économique et surtout sans pèlerins, un comble pour cette partie du monde creusée des trois religions du livre. Alors que le réveillon de Noël sera fêté par des millions de chrétiens dans le monde d'ici quelques heures, direction donc la Terre Sainte, plus particulièrement le lieu où, selon la Bible, Jésus est né et a grandi, une région partiellement reconfinée, où les professionnels du tourisme et les marchands de souvenirs sont désespérés. En cette fin d'année, il n'y aura ni fête ni chiffre d'affaires. Le reportage de notre correspondant à Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Sam, 54 ans, referme la porte de sa boutique fondée par son arrière-grand-père. Son commerce est le plus proche du Saint-Sépulcre, le lieu supposé du tombeau de Jésus. Les affaires ne vont vraiment pas bien.
L'église est fermée, il n'y a pas de touristes, pas d'activité, rien. Seuls les locaux viennent faire des achats. Je n'ai jamais rien vu de tel avant.
Cette crise économique touche des milliers de personnes, comme l'a constaté Zachary Micherki, un Palestinien chrétien de Jérusalem. Il est cadre municipal chargé de la voirie du quartier.
20% des habitants de Jérusalem et de Bethléem vivent du tourisme. Mon beau-frère était guide, il ne travaille plus. Mon frère possède un bus pour promener les touristes, il ne travaille plus non plus. Mon cousin a fermé son magasin de souvenirs depuis le corona. Dans tout Jérusalem, comme les gens achètent moins, la mairie ramasse 40% de déchets en moins chaque jour.
Bethléem, à quelques kilomètres de là, en Cisjordanie, reconfinée et sous couvre-feu. Ce soir, la messe de minuit n'accueillera que 100 fidèles, contre 4000 habituellement. Pour frère Jordan, un moine polonais, cette crise a une dimension spirituelle.
La vie avant le coronavirus était très rapide. Maintenant, tout le monde a ralenti. Plus important, c'est penser de notre vie éternelle.
Mais avant la vie éternelle, il y a la vie terrestre. Oui. Et c'est difficile. Les magasins sont fermés.
Si ton voisin n'a pas quelque chose, tu peux donner quelque chose.
Depuis 10 mois, aucune grande fête religieuse n'a vraiment été célébrée en Terre Sainte.
Frédéric Mettezo, un mot du temps de ce jeudi 24 décembre. Pluie, vent et température en baisse. Une moitié nord du pays sera sous les averses. Ce matin, des précipitations plus marquées vers le Grand Est. Au fil de la journée, ces pluies se décaleront vers le sud-ouest, l'Auvergne et Rhône-Alpes. Temps plus calme cet après-midi près de la Méditerranée. Ciel lumineux. Les températures comptées au plus chaud de 7 à 13 degrés en général, entre 11 et 16 degrés près de la Méditerranée.
Puis c'est Noël aussi, il faut le rappeler quand même, leur choix. À 7h25, le reportage de la rédaction vous emmènera auprès des travailleurs de la deuxième ligne et dans quelques instants, on va évoquer la dette publique. Nous serons en compagnie d'une économiste, Jézabel Coupet-Soubéran.